Parmi les textes en langue sumérienne qui étaient recopiés dans les écoles du sud de l'Irak actuel au début du deuxième millénaire avant notre ère, on trouve quelques textes qui décrivent une population nomade barbare, celle des Amorites. La composition la plus explicite est connue par son titre moderne comme le mariage de Martou. Une déesse veut épouser le dieu Amurum, équivalent acadien du sumérien Martou. Une compagne tente de l'en dissuader en dressant un portrait peu flatteur de l'individu et de ses congénères. Leurs mains sont destructrices, leurs traits sont ceux de singes. Ils ne respectent pas le tabou du dieu Nana, ils n'ont pas de crainte. Dans leurs déplacements constants, puis le verbe manque, étant l'abomination des temples des dieux, leur raison est confuse, ils ne causent que des troubles. Un peuple vêtu d'un sac en cuir qui vit sous une tente, frappé par le vent et la pluie, qui ne fait pas de prière, qui habite les montagnes, qui ne connaît pas les places des dieux. Un peuple qui déterre des truffes au pied des montagnes, qui ne sait pas plier le genou, qui mange de la viande crue, qui de son vivant n'a pas de maison et à sa mort ne sera pas enterré. Le dieu est ici la personnification du peuple amorite. Il s'agit d'un des plus vieux exemples d'ethnocentrisme que l'histoire des civilisations ait conservé. Piotr Mikhalkovski a récemment souligné que ce portrait peu flatteur date de l'époque paléo-babylonienne, donc au début du deuxième millénaire avant notre ère, mais en ajoutant qu'il en existait déjà certains éléments à la fin du troisième millénaire, en particulier dans une inscription du roi Choussin. On a généralement tenu cette description pour caricaturale et sans guère de rapport avec la réalité. Je voudrais aujourd'hui montrer, au contraire, que cette image repose sur des éléments tout à fait précis. De façon étonnante, une telle étude n'a jusqu'à présent pas été menée systématiquement, car on s'est limité à une approche purement littéraire de cette description et d'autres du même genre. Pour cette recherche, nous nous appuierons sur les documents d'archives qui permettent de voir la réalité des Amorites, en particulier sur ceux qui ont été découverts dans le palais de Marie. Rappelons que le caractère amorite de la monarchie de Zimri-Lim est explicite. Zimri-Lim est décrit comme roi des Acadiens et des Amorites, façon de souligner que son royaume comportait deux composantes, avec des acadophones plutôt sédentaires et des amoritophones plutôt nomades. Nous verrons d'abord que le mode de vie nomade des Amorites ne pouvait que choquer les habitants des villes mésopotamiennes. Par ailleurs, l'idéal guerrier des Amorites fut d'autant plus souligné qu'il était menacé de dégénérescence par une tendance à la sédentarisation. Enfin, il faudra montrer qu'on a moins affaire à une opposition qu'à une complémentarité entre nomades et sédentaires, en particulier du point de vue économique. Les éléments du mode de vie des Amorites, qui paraissaient choquants aux scribes du sud de la Mésopotamie, peuvent être classés en quatre catégories. Ce qui était lié à leur apparence, à leur habitat, à certaines coutumes alimentaires, et enfin à leurs pratiques religieuses. La comparaison des Amorites avec des singes est un cliché qui s'applique à d'autres populations montagnardes comme les Goutis. L'apparence physique des Amorites ne peut être jugée d'après les sources mésopotamiennes, faute de représentation. Du moins, du côté de l'Égypte, trouve-t-on des représentations très typées des populations asiatiques qui montrent qu'elles avaient une apparence très différente de leurs voisins. Quant à l'usage des sacs de cuir comme vêtements, on ne peut également pas en juger. Les textes des archives de Marie enregistrent essentiellement des chaussures ou des ceintures en cuir ou encore des outres. Fait cependant exception une sorte de casaque qui peut être en cuir, désignée par le terme narlaptoum. En soi, il n'est pas étonnant que les nomades de la steppe aient utilisé pour se vêtir non seulement des textiles de laine, mais également des vêtements en peau ou en cuir. À propos de l'habitat des Amorites, un hymne du roi d'Issy-Nishmé-Dagan indique « L'Amorite, qui ne connaît ni maison ni ville, peuple stupide qui habite dans la montagne. » Le texte déjà cité du mariage de Martou décrit avec dédain le sort du peuple amorite qui vit sous une tente frappée par le vent et la pluie. Clairement, face à la civilisation urbaine sophistiquée de la Mésopotamie, le mode de vie nomade était l'objet du plus grand mépris. À la fois parce que l'habitat des Amorites n'était pas fixe, et aussi parce qu'il n'était pas construit en dur. Deux termes semblent avoir été employés pour désigner la tente. Celui de Kouchtaroum est connu depuis longtemps, mais il est très rarement employé à Marie. On ne connaît que ce passage d'une lettre encore inédite. « Quand le troupeau des ovins des Bédouins sera à la pâture dans le pays, vous n'infligerez pas de dommages à leur troupeau ni à leur tente, sinon je te ferai la guerre. » Cependant, en 1988, puis en 1995, Jean-Marie Durand a montré que le terme mystérieux « Hurupatum » ainsi que sa variante « Hurupatum » désignait également une tente. Alors ici, un petit moment de publicité pour le site web Archibab, qui vous aide à vous y retrouver dans les archives babyloniennes. Donc, vous demandez, par exemple, chercher les textes dont le résumé contient le mot « tente », et voilà quelques-uns des documents auxquels je faisais allusion que vous pourrez retrouver. Ce mot, donc, « Hurupatum » variante « Hurupatum », dérive de la racine « Aleph RP » et décrive donc une structure qui fait de l'ombre. Et la photo de ces nomades de la région d'Achour en fournit une bonne illustration. C'est une photo des fouilleurs allemands d'avant la Première Guerre mondiale. Le fait de vivre sous la tente est sûrement l'élément le plus marquant du mode de vie des nomades amorites. C'est la raison pour laquelle les textes de Marie les décrivent très souvent par le terme de « Hanou », dont Jean-Marie Durand a montré qu'il signifiait « celui qui habite sous la tente », faisant dériver leur nom de la racine H-N Aleph, qui désigne donc la tente en hébreu. Du point de vue alimentaire, les Amorites sont supposés briser deux tabous en déterrant des truffes et en mangeant de la viande crue. En ce qui concerne les truffes, il s'agit d'un élément naturel de la steppe. Comme me l'a rappelé Hervé Reculot, l'appellation est impropre, car il ne s'agit pas de la même famille de végétaux que les truffes de nos pays. On a affaire à la famille des terfésia et non à celle des tubères. Néanmoins, le terme garde tout son sens au niveau économique et social. Il s'agissait alors, et il s'agit d'ailleurs toujours, d'un mets de choix. Aujourd'hui encore, j'ai pu le voir moi-même au printemps, de telles truffes sont ramassées dans la steppe. Alors je vous ai mis ici en haut à droite, là encore une photo prise par les fouilleurs allemands d'Achour. Donc c'est une récolte particulièrement abondante. Et ces truffes donc constituaient un présent de choix. Les gouverneurs en annonçaient l'envoi au roi. « Dis à Monseigneur, ainsi parle Hadni Iluma, ton serviteur, la ville de Katounan et le district Sava, les pluies ont été continues. Et, alors des truffes ou des champignons du désert, comme on voudra, Kam Atum, viennent d'apparaître dans le district. J'en ai fait porter chez Monseigneur, ainsi que deux œufs d'autruche, les œufs d'autruche étant également ramassés par les patrouilles dans la steppe. » Et je tiens d'une collègue italienne que les nomades de la région de Hatra, donc dans le nord de l'Irak, avaient coutume chaque année de faire présent à Saddam Hussein des plus grosses truffes qu'ils découvraient chaque printemps. Donc on est ici dans des pratiques de longue durée. Reste à comprendre en quoi l'image d'un amorite qui déterre une truffe du désert représente une transgression. Une première traduction ne fait pas de lien entre les deux parties de la ligne et donne à la seconde un sens politique. Jerry Cooper traduit ainsi « A person who digs for truffles in the islands who knows not how to pay homage », donc il ne sait pas comment rendre hommage. Et le sens politique est encore plus clair dans la traduction de Jacob Klein « A man who digs up mushrooms at the foot of the mountains who knows no submission ». Il me semble qu'il faut prendre en compte les deux lignes du texte qui précèdent en considérant que les trois forment un ensemble. Qui vit sous une tente frappée par le vent et la pluie, qui ne fait pas de prière. Qui habite les montagnes, qui ne connaît pas les places des dieux. Un peuple qui déterre les truffes des montagnes, qui ne sait pas plier le genou. On voit qu'à chaque fois, le premier hémistiche décrit la vie de ces nomades et la seconde, une obligation religieuse qu'ils ne connaissent pas. En ce qui concerne les truffes, il me semble que le texte sumérien n'a pas encore été exactement compris, parce que dans la seconde moitié de la ligne, on est passé directement du sens littéral au sens figuré. Le texte signifie mot à mot « qui ne plie pas le genou ». Et le sumérien, « doudisgam », est l'équivalent à l'acadien « kamassoum » s'agenouiller, donc en général en geste de prière ou éventuellement de soumission. Et donc, il me semble que l'Amorite est présenté en fait comme un goinfre qui n'hésite pas à s'accroupir pour s'emparer de délicieuses truffes, mais qui est incapable de s'agenouiller pour prier un dieu, comme sur cet Orang de Larsa qu'on a vu ce matin pour d'autres raisons, mais que je convoque ici en raison du genou plié qu'on y trouve. Deuxième tabou, la question de la viande crue. Nous ne possédons aucune information sur le fait que des nomades aient mangé de la viande crue, mais je dirais, vu la nature de nos sources, c'est le contraire qui serait étonnant. Dans une lettre, Oussam Siadou se soucie du ravitaillement de soldats recrutés parmi les nomades sous les ordres des Yarimadou, il est question de viande et de vin. Je cite « Envoie un message aux Bensimalites et aux Benjaminites, donc deux des principales tribus nomades, pour qu'ils te viennent en aide. En ce qui concerne leur ravitaillement et celui de l'armée qui est sous tes ordres, tant en farine qu'en pain aigre, que le pays aura préparé pour ma venue, il faut chaque fois donner mensuellement à l'armée moitié farine et moitié pain. Fais entrer dans les citadelles de la troupe dotée d'un armement léger. Lorsque tu l'auras fait, fais-toi un bataillon pris sur le pays bédouin. Il faut que cette troupe ait tout son sou de viande et de vin, qu'il n'ait pas de motif de mécontentement concernant viande et vin. » Mais cette lettre ne nous dit pas comment la viande était consommée. Récemment, Michael Streck a essayé de dédramatiser la description des Amorites comme mangeurs de viande crue. Et il a indiqué « Viande non cuite ne signifie pas crue, mais simplement non cuite dans l'eau. Emporter des marmites d'argile lors des déplacements saisonniers était problématique dans de telles circonstances. » Et donc, apparemment, il sous-entend que les Amorites pouvaient rôtir la viande. La seule allusion explicite que nous ayons concerne un sacrifice offert par un prince bédouin, Yagiraddu. Le jour où j'ai fait porter cette tablette de moi à mon seigneur, Yagiraddu, s'étant installé sur la rive opposée à la ville de Terka, a offert un sacrifice. Une troupe d'une centaine d'hommes allait avec lui. Il a découpé les viandes rôties et s'est levé pour partir. La description des nomades comme mangeurs de viande crue est un topos classique dans la description des barbares, comme celle que donna Amien Marcellin des Huns, analogue par plus d'un aspect à celle des Amorites. On rappellera aussi que le terme Eskimo, pour désigner les Inuits, serait un terme algonquin qui signifie « mangeur de viande crue » et je suis sûr que ma liste n'est pas complète. Je passe maintenant au quatrième volet de cette description, les pratiques religieuses. On a déjà vu que le texte du mariage de Martou décrit les Amorites comme un peuple impie qui vit sous une tente, donc frappé par le vent et la pluie, qui ne fait pas de prière, qui habite les montagnes, qui ne connaît pas les places des dieux. Ces éléments sont la conséquence logique d'autres traits de leur description. Les Amorites n'ayant pas de maison, ils sont supposés ne pas disposer d'endroits où faire leur dévotion, à l'image de cette chapelle domestique d'Our bien connue. Mais, malgré tout, il est totalement faux de les décrire comme étant l'abomination des temples des dieux, comme on trouve dans le mariage de Martou. Les archives de Marie nous parlent en effet souvent de temples urbains fréquentés par des nomades. Lorsqu'ils demandent à entrer dans ces villes pour faire leur dévotion, les autorités locales sont parfois inquiètes, mais elles finissent par les accepter. Et on voit également, dans certains cas, la conclusion d'une alliance qui s'effectue dans un sanctuaire. Asditakim et les rois du Zalmakoum, les chers Sugagoum et les anciens des Benjaminites ont tué l'anon dans le temple de Sin de Haran. Et donc là, clairement, on voit des bédouins qui n'hésitent pas à se rendre à l'intérieur d'un temple pour des raisons à la fois politiques et religieuses, puisque une alliance relève bien évidemment des deux domaines. Un certain nombre de lettres parlent également des dévotions des Bédouins dans un endroit appelé Mahanoum. Après avoir pensé qu'il s'agissait d'un endroit particulier, Jean-Marie Durand se demande maintenant s'il ne s'agirait pas d'une sorte de sanctuaire itinérant, et je renvoie ici à sa contribution aux recherches franco-japonaises qui doit paraître dans le volume 105 de la revue d'Assyriologie. Enfin, la description de la piété des Amorites aurait dû mentionner l'importance du culte des pierres levées. Les archives de Marie ont maintenant complété la documentation archéologique sur ce sujet. Les Amorites n'auraient pas de lieu pour enterrer les morts. Là encore, cette notation s'explique par les coutumes funéraires des habitants des villes de Sumer. Les morts de la famille étaient enterrés dans des caveaux situés sous le sol même de leur maison. D'où l'équation « pas de maison, pas de tombe ». Nous savons qu'en réalité, les Amorites inhumaient leurs morts dans la steppe, élevant sur les tombes des amoncellements de pierres. C'est ce que montrent à la fois les fouilles des cairns dans la région du Djebel Bichri, ainsi que des textes de Marie. Les Amorites sont décrits comme des animaux prédateurs et, de fait, leurs activités destructrices sont attestées. Cependant, le processus de sédentarisation auquel certains d'entre eux succombèrent risquait d'affaiblir leur idéal guerrier. Alors, ce caractère guerrier des Amorites est souligné, par exemple, dans une inscription du roi d'Ur III, Shushin. Alors, les Amorites, un peuple destructeur aux instincts bestiaux, tels des loups qui, sans doute, attaquent les enclos à moutons, peuple qui ignore la culture du grain, etc. Dans ce texte, donc, l'accent est mis avant tout sur le caractère prédateur des Amorites, et le roi d'Ur, inversement, est un bon pasteur qui, on le sait par ailleurs, édifie un mur pour protéger son peuple de ses loups. L'importance des valeurs militaires chez les Amorites explique sans doute également pourquoi le plus haut grade dans l'armée de l'époque paléo-babylonienne était désigné comme Gal-Martu, ou encore Ugula-Martu, littéralement le chef des Amorites. Il semble que ce caractère guerrier des Amorites se soit parfois émoussé, certains d'entre eux cédant au charme de la vie sédentaire, préférant rester enfermés dans leur maison à faire bonne chère plutôt que de partir faire la guerre. Une lettre, écrite par un chef nomade à un de ses homologues, en témoigne. « Avant mon départ, j'ai parlé en ces termes. Tu dois venir avec moi. Zimrilim a décidé de faire route. Et toi, tu envisages de manger, de boire et de dormir, mais pas d'aller avec moi ? Rester inactif et couché ne te fait pas rougir ? Moi, je te jure que je ne suis jamais resté toute une journée sans bouger à la maison. Jusqu'à ce que je sorte à l'extérieur pour m'aérer, j'ai un sentiment d'étouffement. » Un peu plus loin, « Dis-moi pourquoi j'aurais besoin de te calomnier. Peut-être que jamais vent chaud ou froid n'a fouetté ton visage. Tu es indigne de ta race. Là précisément où père et mère ont contemplé tes traits, après que tu es tombé du sexe de ta mère, tu ne fréquentes que sexe de femme, tu n'as pas la moindre autre expérience. Moi-même, voici comment j'ai toujours procédé. Sur le grain que j'ai fait, je n'ai pas fait de réserve, mais... » etc. Pierre Marello a justement interprété cette lettre remarquable comme une apologie de la vie nomade, caractérisée par la vie au grand air et par son idéal guerrier. Michael Streck, en taxant cette interprétation d'anachronique, n'a, me semble-t-il, pas compris grand-chose à ce texte, obsédé qu'il est par la différence entre petit nomade éleveur d'ovins, qu'étaient les Amorites, et grand nomade éleveur de dromadaires, tels qu'on les connaît beaucoup plus tard. Mais il ne faut pas oublier l'ampleur des déplacements saisonniers des Amorites. Nous savons que les Benjaminites du Moyen-Euphrate se rendaient chaque été jusque dans la région du Liban et qu'ils en revenaient quelques mois plus tard. Donc ce n'est pas des déplacements d'un village à l'autre. Dans une autre partie de sa lettre, l'auteur raille explicitement l'esprit de thésaurisation. Il ne faut pas croire, dit-il, qu'on achète la fidélité des gens avec de l'argent, c'est un passage que j'ai sauté ici, ou encore on voit à la fin, il ne sert à rien de faire des réserves de grains. Et enfin, la mention du vent chaud ou froid peut être directement mise en relation avec la description du mariage de Martou. On est bien là dans l'apologie de la vie en plein air et des activités guerrières. Les descriptions littéraires des Amorites mettent l'accent négativement sur le fait que ces gens ignoraient la culture des céréales. La réalité montre en fait une remarquable complémentarité économique. Donc les descriptions des textes sumériens sont le plus souvent négatives. Au lieu de dire que les Amorites sont des éleveurs, les scribes indiquent qu'ils ne connaissent pas l'agriculture. Le reproche figure déjà dans la malédiction d'Akkad, un texte qu'on sait avoir été rédigé dès l'époque d'Ur III, les Amorites des montagnes, peuple qui ignore littéralement le grain, donc l'agriculture. On retrouve le même motif dans l'épopée de Lugalbanda et dans une inscription de Shushin que j'ai déjà citée. Le seul texte qui présente les choses de manière positive est le mythe de Enki et l'ordre du monde. Lorsque le dieu Enki assigna à chaque groupe sa destinée, il prit en compte les particularités des Amorites. À celui qui n'a ni ville ni maison, à l'Amorite, Enki fait présent du bétail. La complémentarité économique entre nomades et sédentaires a été soulignée maintes fois par les commentateurs modernes. L'un de ses auteurs, Michael Roughton, a mis en vogue le concept de dimorphisme. La Mésopotamie se caractériserait par la présence de deux segments socialement hétérogènes, mais économiquement complémentaires. Il interprétait, en ce sens, le texte du mariage de Martou. Beaucoup a été écrit à propos du vieux conflit entre nomades et sédentaires, mais ça n'est qu'une phase de l'histoire. L'autre est le besoin mutuel. Ces deux thèmes étaient déjà reflétés dans la tradition sumérienne littéraire concernant les nomades Martou. Dans ce mythe, ils sont représentés par un dieu, Martou, comme un sauvage barbare. Et cependant, l'histoire a une fin heureuse, puisque Martou épouse la fille d'un habitant d'une ville. Je voudrais souligner que cette complémentarité est explicitement décrite dans les archives de Marie, étant à la fois consciente et organisée. C'est ce que montre une lettre du chef de pâture, Ibal El, au roi Zimrilim, qui a été publiée par Michael Guichard il y a 10 ans, mais dont l'importance n'a pas encore été suffisamment notée en dehors des spécialistes de Marie. Ayant quitté Razama de Yusan, j'ai approvisionné Bounou Eshtar, Zouzou, Samsihera, Rinishulmi et Sambougani. À Malachatoum du Saroum, pour l'Assemblée des rois, celle de Hayasumu, Sametar et tous les rois de l'Idamaratz, je les ai envoyés et je les ai approvisionnés. Alors je leur ai tenu le discours suivant. Depuis toujours et pour longtemps, les Bédouins sont tes pasteurs, et toi tu es leur cultivateur. Pourquoi maintenant as-tu retenu le grain Chipatoum des Bédouins ? Voilà ce qu'entre autres choses je leur ai dit. Par la parole, j'ai apaisé leur cœur, et à présent, ils ont déposé en signe de bonne relation pour les Bédouins 21 litres d'huile et X années de grains chipatoum chacun. Ils ont parlé droitement pour Monseigneur. Dans ce texte tout à fait exceptionnel, Ibal El reproduit donc le discours qu'il a tenu au roi de l'Idamaratz, autrement dit le cœur du triangle du Rabour dans la Syrie du Nord-Est. Il s'adresse à eux en les apostrophant au singulier. Et on ne peut pas rêver d'affirmation plus consciente de la complémentarité entre bédouins éleveurs et habitants de l'Idamaratz agriculteurs. Ces derniers doivent verser une redevance en huile et en grains aux bédouins, qui sont des besoins que les bédouins ne peuvent pas couvrir, évidemment, et on peut penser que la contrepartie est la protection militaire. Je terminerai par une remarque concernant la langue. Les Amorites parlaient un idiome sémitique, mais différent de l'acadien. On sait maintenant qu'il n'y avait pas d'intercompréhension entre les locuteurs de ces deux langues, même si un certain nombre de personnes étaient bilingues. Cependant, on ne trouve pas à cet égard de description négative du genre « ces gens qui parlent un idiome incompréhensible », ce qui est la définition même du barbare par les Grecs. Comme l'a souligné Wolfgang Gröhlich, aucun texte mésopotamien ne se moque de l'autre en raison de sa langue. C'est un point qu'il faut souligner. Ce n'est pas ici le lieu de reprendre la question de la date et des modalités de l'implantation des Amorites en Mésopotamie. La confrontation que j'ai voulu mener entre les descriptions des Amorites dans les textes sumériens littéraires et les réalités connues avant tout par les archives de Marie montre que les traits retenus sont en partie seulement pertinents. Mais quand c'est le cas, la description ne retient que l'aspect négatif de la chose, dans une volonté claire de déprécier l'autre. Dans les faits, on constate une très étroite symbiose où chacun, éleveur comme agriculteur, trouve son intérêt. Je vous remercie de votre attention.